Bonjour, bonjour, c'est bien Radio Cartable 89.4 FM. Et aujourd'hui sur Radio Cartable, pour les enfants des écoles d'Ivry, nous rediffusons l'émission du 20 novembre 2019. Vous allez pouvoir écouter tout de suite une émission sur la mixité au foot. Ensuite, nous aurons l'interview de Martine Pernodet qui parlait aux enfants de comment nos gestes quotidiens impactent le vivant. À 14h26, on écoutera des maternelles nous expliquer ce qu'est un lombricomposteur. Puis tout de suite, la suite de l'émission avec Martine Pernodet. À 14h42, les maternelles à nouveau visitent le zoo de Thoiry. Et à 14h49, un exercice bien particulier que les CM2 de l'école Torres doivent reprendre bientôt, le quoi de neuf, avec les actus et la présentation d'un scientifique, Stephen Hawking. Je vous souhaite une bonne écoute.
Radio Cartable. La radio des écoles d'Ivry. Voici le sommaire.
Bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Aujourd'hui, revoilà la classe de CM2 A et B du maître Thomas et de la maîtresse Sarah. Et aujourd'hui, je suis avec
Radou,
Samy
et
Milena
et moi-même Lorna.
L'année dernière, il y avait surtout des garçons qui jouaient au foot. Maintenant, il y a une nouvelle règle. Il faut qu'il y ait autant de filles que des garçons dans l'équipe. Mais parfois, c'est pénible, car il n'y a pas toujours des filles qui veulent jouer.
Parfois, les garçons forcent un peu les filles. Ils les obligent, car les filles n'aiment pas trop jouer au foot.
Si on n'a pas envie de jouer, on n'est pas obligé. Mais bien sûr qu'il y a des filles qui ont envie de jouer. Il y a certaines filles qui aiment ça.
C'est mieux quand il y a des garçons et des filles dans une équipe. Avant, dans une équipe, il pouvait n'y avoir que des filles et dans une autre, que des garçons. Mais comme les garçons sont souvent plus forts, parce qu'ils jouent plus souvent, dans des clubs ou à l'école, forcément, ils gagnaient.
Donc moi c'est Youssef Alouane, donc du coup je suis animateur au centre de loisirs Maurice Thorez élémentaire et je suis sur Thorez depuis janvier 2015. Parce que c'est le football, ou voire même le basket, ou voire même le handball, ce sont des sports bien identifiés. Moi j'ai remarqué qu'il n'y avait pas tant de mixité que ça comparé aux autres jeux de ballon. Notamment filles-garçons. Du coup, les filles jouaient au foot, participaient, mais on était dans une forme de compétition. C'est-à-dire qu'on avait organisé un tournoi le midi quand il faut gagner les matchs pour passer au tour suivant, parfois il y avait de l'animosité et il y avait beaucoup d'énervement par moment. Il y avait des comportements très conflictuels et parfois ça pouvait aller. On n'en était pas très loin d'arriver à la bagarre. Hein, donc il y avait des noms d'oiseaux qui volaient. Il y avait des voilà, c'était pas sympa. On a vraiment mis le doigt sur le fait que c'était le côté compétition qui était au cœur de ça. Il fallait absolument que les enfants, quand ils venaient sur le terrain pour jouer au foot, l'idée c'était qu'ils viennent avec un état d'esprit, je vais jouer, que je perde, que je gagne, c'est pas ce qu'il y a de plus important. On a eu un temps d'échange avec eux pour quand même leur expliquer la démarche, de constater avec eux qu'il y avait des soucis. On s'est dit peut-être que trop de foot tue le foot. Ça, c'était la première chose. Donc peut-être le foot, le mettre qu'une fois dans la semaine et permettre aux enfants, bah, les autres jours, de faire autre chose que du football. Ça, c'était la première chose. La deuxième, c'était que bah, même si une équipe était très forte, bah, à un moment donné, elle laisserait sa place. C'est-à-dire que l'idée, c'était pas que tant que je gagne, je reste sur le terrain. Parce que juste parfois, c'était le cas. On a quand même limité également le nombre d'équipes. C'est-à-dire que c'est 4 équipes de 6 grand maximum, où tout le monde se rencontre, où il n'y a pas de classement, où il n'y a pas de résultat. Donc tout le monde va jouer l'un contre l'autre. Pour maintenant, quand ils vont jouer, alors ils vont jouer pour essayer de marquer des buts, etc. Mais quand ils vont prendre des buts, il n'y a plus ce côté dramatique, c'est la fin du monde. À l'école, on ne fait pas du football, on joue au ballon. C'est déjà c'est une vraie différence. En club, on fait du football. À l'école, on joue au ballon. C'est du foot, mais on joue au ballon. Donc moi, je voilà, des enfants qui ont envie de jouer et à qui on dit « bah écoute, bah tu joues, mais bon, bah par contre, si tu perds, tu peux aller manger parce que... » Enfin, faire autre chose, mais par contre, c'est fini. Bah ouais, effectivement, bah si je sais pas jouer, si j'ai jamais fait de foot en club, mais que j'ai envie de jouer quand même, bah du coup, j'ai pas ma place. L'idée, c'était aussi que tous les enfants, peu importe leur niveau, aient leur place. S'ils ont envie de jouer, il faut qu'ils aient du jeu et il faut qu'on leur garantisse quand même un temps de jeu où ils s'amusent, parce que c'est un temps d'amusement.
Vu que tu as joué au foot aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner ton sentiment sur les équipes, sur le foot, etc. Ce que tu en penses?
Moi, je trouve que j'aime bien ce sport. J'aime bien ce sport. C'est amusant, ça nous apprend à tirer, à jouer.
Est-ce que tu as remarqué quelque chose dans les équipes ou pas du tout?
Oui, j'ai remarqué qu'il y avait 3 filles et 3 garçons.
Ah, et pourquoi?
Je ne sais pas, mais je trouve que c'est égal.
Après, il y a une règle qui a été non négociable. C'était que les équipes, elles devaient être mixtes. Voilà. Donc, tous les enfants qui souhaitaient jouer, qui souhaitaient présenter une équipe pour jouer. Donc, si on faisait des équipes de 6, il fallait qu'il y ait 3 filles, 3 garçons. Les effets ont été, mais alors, se sont vus, mais tout de suite. L'idée, c'est pas d'obliger les garçons à jouer avec les filles, mais les inciter au maximum de se dire, bah, on a une équipe. Voilà. Bah, on va essayer de jouer ensemble et de faire du mieux possible ensemble et que tout le monde participe. Et bah, au début, c'était pas facile parce que, bah, étant donné que jusque-là, ils les avaient pas inclus spontanément avec eux, volontairement, et que maintenant ils avaient besoin des filles pour pouvoir jouer, bah, au début, les filles, elles voulaient pas trop. Elle voulait pas trop jouer avec les garçons. Bah oui, mais moi je peux le comprendre. Et puis parfois il y a des enfants qui venaient me voir. Ouais, mais on veut, les filles veulent pas jouer, on n'a pas d'équipe. Je fais oui, mais c'est normal. Je fais mettez-vous à leur place. Jusque là vous faisiez comment? Et du coup, une fois qu'ils les ont trouvés, du coup ils se les accaparent tout de suite. Bon bah, à partir de maintenant vous êtes dans notre équipe, vous jouez avec nous. Voilà, mais bah, par exemple, à la balle américaine, il y a des filles et des garçons, mais on ne se pose pas la question de la mixité. C'est-à-dire que ça ne pose pas souci. Là, je me dis, on n'est pas encore dans ça, mais c'est un premier pas. C'est-à-dire que déjà, on a franchi le pas d'intégrer pleinement les filles.
Bonjour, moi je m'appelle Elias, je suis en CM2B et j'ai 10 ans. Moi, le foot, je trouve que c'est bien. Il y a 3 filles, 3 garçons. On a assez de temps sur les matchs. Et bah voilà, c'est bien.
Dans quel but, en fait, la mixité est mieux?
C'est quoi l'objectif, en fait? En fait, on est beaucoup plus... moi, pour ma part, il y avait des gens qui étaient dans mon équipe que je connaissais pas forcément. Enfin, je connaissais, hein. Mais j'ai appris à les découvrir dans l'esprit d'équipe et tout ça, et maintenant je mange clairement avec eux, je m'amuse avec eux, et en fait ça a créé un rôle d'amitié, c'est vraiment super sympa ça.
je trouve que ça serait correct, même en foot professionnel.
Ah oui, carrément.
Oui,
ah
oui, je pense que
oui, carrément.
Je pense que
moi, j'aime pas l'idée de que les foot sur, enfin, par exemple à la télé, j'aime pas l'idée que ça soit que des garçons.
J'aime pas l'idée que ça soit entre sexes, en fait.
Comment ?
J'aime pas l'idée que ça soit entre sexes, que
mixte,
ce soit,
que ce soit
féminin, soit masculin.
Et... Toi, tu aimerais des équipes mixtes, même au niveau professionnel ?
Oui.
Ah oui, c'est pas mal, ça.
Imaginez, vous pourriez survivre une journée sans électricité?
Bien sûr, le plus important, c'est de manger, de boire.
Chez moi, on cuit les aliments sur une plaque en vitre céramique. Donc, sans électricité, on ne pourra pas cuisiner.
J'ai la solution. Il faut aller chercher un grec.
Avec du liquide alors, car les cartes bancaires nécessitent de l'électricité. On écoute la spécialiste de l'économie d'électricité. Elle a fait une journée polaire avec ses élèves.
Demain, ma planète, j'en prends soin aujourd'hui.
Regarde un peu les survivants. Ils ont des larmes au fond des dents. Ils voudraient changer d'autoroute. Mais c'est pas comme ça qu'on s'y prend.
En quoi nos gestes de tous les jours ont un impact sur l'environnement?
Quand on mange de la nourriture qui a été cultivée ou de des animaux qui ont été élevés. Et pour cultiver des plantes ou pour élever des animaux, on doit consommer de l'énergie. Et quand on consomme de l'énergie, on brûle de l'essence, on brûle pour le tracteur, par exemple. Et il y a du dioxyde de carbone qui va dans l'air. Et alors, il y a changement climatique.
Pourquoi consommer de l'énergie n'est pas bien pour la planète?
Alors, consommer de l'énergie, ce qui n'est surtout pas bien, c'est consommer de l'énergie que l'on appelle fossile. C'est-à-dire du charbon, du pétrole. Parce que cette énergie... Pour récupérer l'énergie, il faut brûler. Et quand on brûle, alors dans l'air, il y a du dioxyde de carbone. Et ce dioxyde de carbone va augmenter la température de l'air. Si on augmente la température de l'air, vous savez bien, la glace et les glaciers fondent. Si les glaciers fondent, alors le niveau des océans augmente. Alors, des animaux, et je repense à ta question... comme les coraux, qui ne peuvent ni vivre qu'à une certaine profondeur, ne pourront plus vivre et donc vont disparaître. Et dans le récif corallien, vous savez peut-être avec des dessins animés comme Nemo, qu'il y a de nombreux poissons qui vivent, et donc toutes ces espèces vont disparaître. Et puis il y a toutes les populations humaines qui habitent sur le bord de la mer qui pourront plus vivre non plus. Et puis quand la température augmente, ben les animaux... ils n'arrivent plus à vivre. Donc, ils vont changer d'endroit. Et puis, les végétaux, ils aimeraient changer d'endroit, mais eux, ils n'ont pas de quoi se déplacer. Donc, ces végétaux, ils vont mourir. Et ces végétaux, c'était peut-être la nourriture d'animaux. Et alors, les animaux qui se nourrissaient de ces végétaux n'ont plus à manger. Et puis, quand la température augmente, il va y avoir des microbes qui donnent des maladies qui, eux, sont très contents et se mettent à se multiplier et à rendre malades les autres.
Regarde un peu vers l'horizon, c'est la nouvelle génération.
Comment peut-on préserver l'environnement de la pollution?
On peut essayer de jeter moins. Pour jeter moins, on peut essayer de... manger moins ou consommer moins de nourriture, mais aussi consommer moins de jeux vidéo, consommer moins de télévision, par exemple.
Comment consommer moins d'énergie à la maison et dans les entreprises?
J'ai vu que vous aviez déjà réfléchi. consommer moins d'électricité, donc éteindre. Et puis, vous avez pensé aussi à trier et moins gâcher. Si on veut moins consommer à la maison, ça va dépendre de ce que les entreprises ont fait. Est-ce que les entreprises ont beaucoup transformé, ont mis beaucoup de pesticides? Et s'ils ont beaucoup transformé, beaucoup transporté, alors on va revenir sur l'augmentation de température.
Quelles sont les énergies les moins polluantes et peut-on les utiliser?
Alors, très bonne question qui est en complément des énergies qui polluent. Les énergies qui polluent, on a dit que c'était les énergies fossiles. Et les énergies qui polluent moins, c'est ce que l'on appelle les énergies renouvelables. Le soleil, on en a chaque fois qu'il fait jour. Et ce soleil peut apporter de l'énergie. Du vent, on en a, donc de l'air qui bouge. Il y en a, vous connaissez peut-être les endroits d'Ivry où il y a le plus de courant d'air, où on peut mettre ce qui s'appelle des éoliennes. Et puis, pas dans nos régions, mais dans les montagnes, on peut se servir de l'eau qui est en mouvement, ou dans la mer, de la mer qui est en mouvement. Alors, le problème, c'est qu'il faut fabriquer des dispositifs, des sortes de moteurs pour récupérer l'énergie du soleil ou du vent ou de l'eau pour en faire de l'électricité. Donc il y a des choses qu'on sait bien faire, mais c'est un peu polluant de faire ces moteurs. Et puis le soleil, on en a beaucoup dans la journée, mais on n'en a pas la nuit. On en a beaucoup en été et on en a moins en hiver. Donc il faudrait savoir stocker l'énergie.
Et si tu m'emmènes à Tokyo, je prendrai sûrement quelques photos. J'ai bien peur d'avaler ma langue. Si tu m'emmènes à Hollywood, j'irai moonwalker dans la foule. Mais si tu m'emmènes à Cuba, j'irai danser le cha-cha-cha. Cha-cha-cha.
Pouvez-vous nous présenter l'association Prometheus avec laquelle vous travaillez?
Oui, alors c'est une association qui fait travailler les enfants, donc surtout des grands-enfants du lycée, les chercheurs et leurs professeurs. Et le nom Prometheus, le fondateur de l'association est anglais, donc c'est un mot anglais. Use, c'est l'usage, l'utilisation. Meter, ça veut dire mettre, c'est pour mesurer. Et pro, c'est pour inciter. Donc, Prometheus, c'est pour inciter les enfants à connaître leur consommation d'énergie. Donc, au départ, dans mon lycée, on a mis un petit compteur sur la chaudière et on a fait une journée polaire. Donc, dans la journée polaire, on a essayé de consommer le moins d'énergie possible. On s'est bien habillé, on a fermé le chauffage, on a bien fait attention de fermer les portes, surtout la porte d'entrée, de fermer l'électricité quand on sort d'une salle. Et on a vu qu'avec ces petits gestes, on pouvait faire beaucoup. Et puis après, comme je suis prof de sciences du vivant, on a essayé de voir si on pouvait savoir si le changement climatique, il existait vraiment. Donc on a fait ce qui s'appelle de la veille scientifique. On a essayé de voir quels escargots vivaient aujourd'hui, quels vers de terre vivaient aujourd'hui. Et dans les crottes des vers de terre, il y a des microbes. Et les microbes, ils sont différents selon la température. Vous vous souvenez, on avait dit que quand la température augmente, on a d'autres microbes. Et on veut faire travailler tout le monde ensemble. Donc on a travaillé, mon lycée a travaillé avec un lycée polonais. Et on a regardé que dans la ville d'Ivry, comme dans la ville de Pologne, eh ben, les vers de terre avaient des petites crottes avec des bactéries qui voulaient dire qu'il faisait plus chaud. Et là, en ce moment, les lycéens vont faire des enquêtes pour savoir, les adultes, ce qu'ils savent du réchauffement climatique. Est-ce qu'ils en savent autant que vous ou est-ce qu'il y a des choses qu'ils ne savent pas encore? Et puis, on va voir si on sait en Pologne, en Allemagne, en Roumanie, si tout le monde sait la même chose. Et puis, quand on aura les résultats, donc les scientifiques vont nous aider à donner les réponses à voir si on a les bonnes réponses ou pas. Et puis après, on essaiera de faire un peu comme vous, des conférences pour les parents, pour la ville, pour dire ce qu'il faudrait faire.
Quelles sont les idées trouvées par les jeunes de votre association ?
Alors la première idée, comme on est un peu dans un lycée, c'est qu'il faut apprendre. Et je crois qu'on apprend tout le temps. Moi, j'apprends encore parce que les chercheurs et les scientifiques, ils découvrent de nouvelles choses et j'apprends toujours. Donc, il faut apprendre dans l'école pour comprendre. Comprendre comment les vivants vivent ensemble, comment est-ce qu'on peut leur faire du bien, comment est-ce qu'on peut leur faire du mal. Hein? Et puis, quelle énergie il faut utiliser. La deuxième chose, donc après apprendre, c'est que les lycéens ont envie de s'engager, faire quelque chose, partager les bonnes habitudes. Alors, vous savez déjà qu'il vaut mieux se déplacer à pied ou en vélo, qu'en voiture, ou même en bus, qu'en voiture ou en avion. Qu'il faut essayer d'acheter moins. Qu'il faut essayer de jeter moins. Et puis qu'il faut ne pas gaspiller. Hein. Et puis, la dernière chose, parce que les lycéens, ils vont aller à l'université, ils vont bientôt choisir un métier, c'est essayer de choisir un métier qui permet de faire quelque chose. Alors, peut-être un métier de radio, pour dire aux gens ce qu'ils pourraient faire, ou bien un métier de science, ou un métier d'économie, ou bien un métier avec les végétaux, les animaux. Et même ce que l'on appelle l'intelligence artificielle. Comment, avec des ordinateurs, on pourrait aider aussi. Alors, je voudrais remercier toute la classe qui a été très attentive, qui a posé des questions très intelligentes. Et je pense que maintenant, vous pourrez informer vos copains, vos frères et sœurs, votre famille, vos amis, et essayer de faire que notre planète, elle reste habitable pour le plus de vivants possible, le plus longtemps possible. Merci beaucoup à vous.
Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous avons appris beaucoup de choses avec vous.
On vous dit au revoir et on vous souhaite une très bonne journée.
Donc demain ma planète, j'y pense aujourd'hui.
Demain ma planète, j'en prends soin aujourd'hui.
Regarde un peu les survivants. Ils ont des larmes au fond des dents. Ils voudraient changer d'autoroute. Mais c'est pas comme ça qu'on s'y prend.
Radio Animaux. Radio Animaux.
Il y a plein de déchets dans plein d'endroits du monde. Pour diminuer les déchets, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?
On peut utiliser un lombricomposteur.
À quoi ça sert un lombricomposteur ?
C'est un endroit où on met les épluchures, non ? Et les vers les mangent pour faire de la compote.
Pas de la compote, du compost ! C'est ce que vont nous expliquer les maternelles.
Le journal de la création ! Création.
le lombricomposteur.
Bonjour, je m'appelle Ismaël.
Je m'appelle Elidia.
Je m'appelle Timothée.
Je m'appelle Andrea.
Bonjour.
Bonjour.
Je m'appelle Thérèse.
Bonjour, je m'appelle Aya.
Je m'appelle Kentevan.
Je m'appelle Nena.
Je m'appelle Jamie.
Je m'appelle Anna.
Je m'appelle Edgar.
Je m'appelle Ashley.
Je m'appelle Olive.
Je m'appelle Luke.
Je m'appelle Sidia.
Je m'appelle Mamou.
Ce matin, nous sommes chez les petits.
Ils ont installé un lombricomposteur
dans leur classe.
Nous, on est les grands.
Et ce matin,
nous sommes venus
pour leur poser quelques questions.
Comment ça s'appelle ?
Ça s'appelle un lombricomposteur.
Waouh !
Qu'est-ce qu'il y a dedans ?
Il y a des vers de terre.
Vers de terre.
C'est dégoûtant.
C'est pas dégoûtant.
C'est mignon.
C'est gentil.
Les vers de terre sont méchants.
Qu'est-ce qu'ils font, les vers?
Ils rampent.
Ils mangent.
Qu'est-ce qu'ils mangent?
Des épluchures de bananes.
Ils mangent de la salade et des épluchures de carottes et des épluchures de courgettes.
Qu'est-ce qu'ils ne mangent pas?
Ils ne mangent pas... Je ne sais pas. Ils ne mangent pas de clémentine.
Ni de orange.
Ni de poulet.
Et ni de saucisson.
Et ni de steak.
Ni de saucisse.
Ni d'hamburger.
Et des céréales.
Non.
Non. Non.
À quoi ça sert?
Ça sert à faire pousser les plantes.
Il y a le composteur pour faire pousser les fleurs.
Quand le compost sera prêt,
on va le mettre dans la cour de récréation,
dans les potagers,
pour faire pousser les plantes.
Il y a 5 vers de terre.
Il y a 2 vers de terre.
1 vers de terre.
2 vers de terre.
3 vers de terre.
1 petit vers de terre.
3 vers de terre.
9 vers de terre.
1000 vers de terre.
Et ben voilà, vous savez tout
sur le lombricomposteur.
Vous pouvez faire
la même chose
à la maison.
Au revoir. Imaginez-vous pourriez survivre une journée sans électricité?
Bien sûr, le plus important, c'est de manger, de boire.
Chez moi, on cuit les aliments sur une plaque en vitre ou céramique. Donc, sans électricité, on ne pourra pas...
Demain, ma planète, j'en prends soin aujourd'hui.
Regarde un peu les survivants, ils ont des larmes au fond des dents. Ils voudraient changer d'autoroute, mais c'est pas comme ça qu'on s'y prend.
Bonjour, bienvenue dans la classe de CM1A de Nathalie Medeville à l'école Maurice Thorez B. Je m'appelle Imen et voici Zoé, Milan et Dionysio.
Je m'appelle Martine Pernodet, je suis professeure de sciences du vivant, et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui parce que j'ai vu que vous étiez déjà très sensible au vivant et à votre environnement et à la planète que nous habitons tous.
Nous travaillons sur un projet qui s'appelle « De maman planète, j'en prends soin aujourd'hui ».
On s'est posé plusieurs questions en classe. Que fait-on chaque jour qui a un effet sur notre environnement? Que peut-on faire chaque jour pour essayer de moins polluer? Dans mon groupe, avec Imen, Dionisio et Milan, on s'intéresse surtout à la protection des animaux et des plantes en ville, dans les parcs et jardins, et aux associations de protection de l'environnement.
On a un peu regardé les sujets sur lesquels vous avez travaillé et on a des questions à vous poser si vous êtes d'accord.
Quelles sont les choses quotidiennes qui font du mal aux espèces vivantes?
Quelquefois on fait du mal à l'environnement et quelquefois on fait du bien. Pour vivre, nous avons besoin de manger. Et on a du pain pour notre petit déjeuner. Le pain, on a besoin pour le faire de farine. Et pour cultiver, pour avoir de la farine, il faut cultiver du blé. Et le blé, il peut être attaqué par des insectes. Alors si on veut pas d'insectes, on va mettre des produits anti-insectes, des insecticides ou des pesticides. Mais les pesticides, ils tuent les insectes qui attaquaient le blé, mais ils tuent aussi d'autres insectes, comme les abeilles. Et si les abeilles meurent, alors les abeilles ne peuvent plus faire leur travail. D'habitude, les abeilles, elles aident les plantes à se reproduire et à faire des graines. Et quand on veut une graine, il faut que la plante se reproduise avec l'abeille. Et si on n'a plus de graines, on n'a plus de fruits, alors on n'a plus le jus d'orange pour notre petit déjeuner.
Pourquoi vous êtes-vous intéressé plus particulièrement au problème des abeilles?
Alors, quand j'étais petite, je regardais Winnie l'ourson, qui aimait beaucoup le miel des abeilles. Et puis, il y avait aussi Maya l'abeille dans les dessins animés. Et puis ensuite, quand j'ai été un peu plus grande, j'ai appris que les abeilles, ça vivait dans la ruche et qu'ensemble, elles communiquaient. Elles se disent où est la nourriture, à quelle distance, elles cèdent, elles se donnent à manger. Et puis après, j'ai appris que les abeilles appartenaient à une grande famille d'insectes et qu'elles étaient très utiles pour la reproduction des plantes et pour qu'on ait de la nourriture. Donc c'était encore plus intéressant.
C'est une abeille, elle est en danger parce que les gens ils mettent des produits chimiques.
Oui, alors le pesticide sur l'abeille, ça change son comportement. Avant, elle savait bien où était le soleil, elle arrivait bien à communiquer. Et des fois, vous avez mal à la tête, votre cerveau, il n'arrive pas bien à fonctionner. Et bien là, votre système nerveux, on dit, le système nerveux de l'abeille, il n'arrive pas bien à fonctionner. Donc, elle retrouve plus la ruche. Si elle retrouve plus la ruche, elle peut pas dire aux autres où il y a la nourriture. Ou si elle retrouve la ruche, mais elle se trompe en dansant, elle va donner une mauvaise information. Et puis, on a vu que les ouvrières, elles donnaient à manger aux nounous de la ruche, parce que les abeilles, elles sont d'abord nounous, puis après elles vont être butineuses, elles vont aller chercher la nourriture. Et les nounous, donc elles prennent la nourriture dans la bouche des abeilles butineuses, et puis elles vont donner à manger aux larves. Et les larves, quand elles ont de la nourriture où il y a des pesticides, eh bien elles n'arrivent pas à faire leur carapace, elles n'arrivent pas à faire leur peau. Donc les nouvelles abeilles qui ont été, les petites abeilles qui ont été nourries aux pesticides, eh ben elles ont une peau qui est pas imperméable, et donc elles sont en mauvaise santé. Et je me suis dit, oh là, il faut vraiment protéger les abeilles, il faut mettre des ruches. Et puis voilà qu'il y a d'autres scientifiques qui ont dit, ah ben oui, mais les abeilles, elles n'aident pas la reproduction de tous les végétaux. Si tu veux des tomates sur ton balcon, il faut qu'il y ait des bourdons et pas des abeilles. Donc j'ai appris que c'était compliqué les relations entre les êtres vivants, mais que les abeilles, c'est très intéressant.
Parce que moi j'ai un petit jardin suspendu, hein, et dans le jardin suspendu de la maîtresse habite en centre-ville, on est passé, hein, c'est des petites terrasses en terre, donc j'ai plein d'insectes et de choses, et je peux voir depuis 20 ans l'évolution. Avant j'avais des gros pigeons, et là depuis à peu près un an,
Ben, je pense que les pigeons ont dû être emmenés ailleurs. On a dû réguler en emmenant les pigeons. Et j'ai des petits moineaux et j'ai des ravissants. Je pense que j'ai eu du chardonnay avec un petit ventre bleu. Et donc, du coup, maintenant, je vais installer une petite maison pour nourrir ces oiseaux pour l'hiver.
Regarde un peu les survivants. Ils ont des larmes au fond des dents. Ils voudraient changer d'autoroute, mais c'est pas comme ça qu'on s'y prend. Ne fais plus confiance à personne, c'est la devise des naufragés. Y a toujours un con qui klaxonne pour qu'on continue d'avancer. C'est beau la vie quand on y pense, un peu moins quand on la dépense, à s'énerver toute la journée, on finit par tout oublier. N'ayons plus peur de l'essentiel, n'oublions pas d'être fidèles à ceux qui nous montrent le ciel pour voler nos âmes.
Quelles sont les espèces les plus menacées en France et dans d'autres pays dans le monde aujourd'hui ?
Merci de la question aussi. Alors, il y a nos cousins proches, les grands singes, les chimpanzés, les orang-outans, les gorilles, qui sont très en danger. Il y a encore les animaux comme nous qui ont des poils, qu'on appelle les mammifères, donc le rhinocéros, l'éléphant, le koala, le kangourou, la baleine même, les ours, tu as entendu parler des ours polaires, mais il y a aussi dans la mer les poissons, les tortues, et puis il y a certains insectes, puisqu'on a parlé des abeilles. Tu me demandes s'il y a des espèces menacées, mais il y a aussi des espèces qui sont en train de se développer beaucoup. Vous avez peut-être entendu à Ivry parler des insectes qui s'appellent les punaises de lit. Hein, y en a beaucoup. Et puis il y a aussi dans nos villes les pigeons, les rats. Et puis, on en parle peut-être un peu moins, mais il y a aussi les petits microbes qui donnent les maladies. Donc, comme la maladie de la dengue, la maladie, les fièvres. Donc, avec notre changement climatique, on a des espèces du vivant menacé et puis du vivant qui se développe beaucoup. Merci. Alors, qui est-ce qui veut dire si son espèce est en danger ou pas ?
Moi.
Oui ?
Je pense qu'elle est en danger.
Une mouette ?
Oui. Alors, la mouette, avant, elle habitait que sur le bord de mer. Et il n'y avait plus assez de poissons. Donc, elle était en danger. Mais elle a des ailes. Donc, elle s'est déplacée. Et maintenant, elle est dans nos villes. Donc, elle est en train de se multiplier chez nous. Elle est en danger au bord de la mer, donc c'est vrai. Mais chez nous, dans nos villes, elle se multiplie.
Par exemple, cette espèce, elle est en danger au pôle Nord parce qu'on la chasse.
Oui. C'est quoi ?
Je ne me rappelle plus ce que c'est, mais je l'ai déjà vu dans un film.
C'est pas un pingouin.
Non.
Ça ressemble à ça, mais c'est pas un pingouin.
C'est
son nom, Urban.
Un
macareux.
Très bien, très bien. Donc le macareux, il vit sur le bord de mer. Et lui ne se nourrit que de poissons et pas du tout de poubelles. Et donc lui est en danger à cause des hommes qui pêchent trop. Et aussi à cause du réchauffement climatique qui font que les poissons qui habitaient avant les régions froides n'ont plus de régions froides, donc ne peuvent plus vivre. Très bien.
Oui. Donnez bien le nom de votre animal, parce que à la radio, on ne le voit pas. Hein. Il faut avoir donné son nom.
L'hibou, je pense qu'il n'est pas en danger.
Alors, le hibou, sais-tu où il vit ?
Dans la forêt.
Très bien.
Donc, dans la forêt, s'il a son habitat forestier, il est très bien. Mais si jamais on enlève la forêt, vous connaissez le mot déforestation?
Ah oui, non.
Alors, ce pauvre animal est en danger. Et on peut enlever la forêt parce qu'on voudrait du bois pour faire des maisons, ou bien parce qu'on voudrait le terrain pour avoir un champ pour faire des céréales, ou pour faire d'autres cultures pour manger. Donc, ta chouette ou ton hibou, ils sont en danger si leur forêt est détruite.
Une tortue. Et la tortue, je crois qu'elle va pas bien. Parce que je crois que les bateaux viennent et la blessent.
Alors, si je veux continuer, la tortue, on en a un petit peu parlé au début. On a dit que si on jetait nos sacs plastiques, les tortues pouvaient manger... Enfin, les tortues, elles aiment beaucoup, surtout celles-là. Ça aime beaucoup manger des méduses. Et les méduses, ça ressemble un peu... Enfin, les sacs plastiques, ça ressemble un peu aux méduses. Donc, la tortue va le manger... Et puis après, elle va s'étouffer, elle ne peut plus respirer. Mais ce qui est aussi intéressant sur les tortues, c'est que nous, vous savez que quand on naît, on est soit un petit garçon, soit une petite fille, un bébé garçon ou un bébé fille. Et les tortues, ça dépend de la température. Et c'est à peu près 18 degrés. En dessous de 18 degrés, ça va être des tortues garçons. Au-dessus de 18 degrés, c'est des tortues filles. Eh bien, si la température de notre planète, elle est trop haute, on n'a plus que des tortues-filles. Et comment est-ce qu'ils vont faire des enfants, ces tortues-filles? Donc, elle est vraiment en danger, la tortue.
Et aussi, pour les tortues, dans d'autres pays, on aime beaucoup prendre leur carapace.
Oui.
Elles sont braconnées. C'est une espèce qui est censée être protégée. Hein. Mais malheureusement, il y a parfois du braconnage, justement, sur des carapaces de tortues.
C'est un poussin. Et moi, je pense qu'il est en danger. Parce qu'ils ont pas assez de poissons dans la mer. Et du coup, ils pouvaient plus manger des poissons.
Moi, je crois que les poussins, ça mange pas de poissons parce que ça vit parfois dans la ferme et pas à côté de la mer. Donc, ça mange pas des poissons, mais c'est pas pourquoi c'est en danger.
Moi, je pense que les poussins, ça mange des vers de terre, mais qu'ils sont en danger parce qu'ils ont plus de vers de terre, justement parce que les gens ils mettent des produits chimiques et ça tue les vers de terre.
De maman planète, je pense.
Radio Animaux. Radio Animaux.
Radio Animaux, ça commence.
Nous sommes les grandes sections
de l'école maternelle.
L'orme chat.
Notre maître, c'est...
Benjamin.
Jeudi 4 avril, nous sommes allés au zoo de Thoiry. À 8h20, rendez-vous devant l'école.
Le sandwich est dans le sac. Les appareils photo aussi.
Il ne manque personne à l'appel.
Alors c'est parti.
Direction Thoiry.
On a pris le car pendant une heure.
Le zoo de Thoiry est un grand zoo où on peut voir beaucoup d'animaux différents. Il y en a de grands.
Il y en a des petits. Il y a des poilus.
Il y en a des tout nus.
Certains ont l'air gentils.
D'autres sont assez effrayants. Certains ont l'air mignons.
D'autres sont plutôt bizarres.
Certains sont très joueurs.
Et d'autres ont l'air de s'ennuyer.
Certains ont l'air tout doux.
Et d'autres ont de grandes dents. Comme le crocodile, qui peut mordre très fort.
Le tigre et le lion, ils ont aussi des grandes dents.
Mais n'aie pas peur, mon enfant.
Oui, mange pas des visiteurs.
Peut-être même que ce sont eux qui ont peur.
Moi, hier, j'ai vu un tigre rugir. Non, miauler.
Nous vous proposons tout de suite une première série de devinettes de Radio Animaux.
Radio Animaux.
Devinette numéro 1. Que font les griffes des félins ? Vous avez la réponse ? Je vais vous la donner. Elles se rétractent. Ça veut dire qu'ils peuvent rentrer dans la patte et sortir de la patte. Sauf celle du guépard.
Devinette numéro 2. Ouvrez grand vos oreilles. Aussi grand que celle de l'éléphant d'Afrique. Pourquoi a-t-il des grandes oreilles ?
Si l'éléphant d'Afrique a des si grandes oreilles, c'est parce que son sang passe dedans pour le refroidir quand il les remue.
Devinette numéro 3. Pourquoi la girafe doit remonter sa tête quand elle a bu? Si son sang ne remonte pas bien dans sa tête, il peut s'évanouir.
Devinette numéro 4. Pourquoi les suricates se mettent debout? Question difficile. Je vous donne la réponse.
Si les suricates se mettent debout, c'est pour regarder les prédateurs qui arrivent du ciel. Ils sont malins.
Devinette numéro 5. Pourquoi le loup fait pipi sur les arbres?
Il dit que c'est son territoire. Aux os de loup. Devinette numéro 6. Quel est le plus gros des serpents? Vous avez la réponse ? Pas de panique, je vais vous la donner. Il s'agit de l'anaconda vert. Il peut mesurer plus de 8 mètres. Il faut 8 milliards pour faire un anaconda.
Il faut 8 ragnas pour faire la taille de l'anaconda.
Radio Animaux.
Radio Animaux.
Radio Animaux.
Radio Animaux, c'est fini.
Près de chez moi, il y a un homme handicapé. Il marche très bizarrement.
Une fille trisomique habite près de chez moi. Elle est souvent isolée. Une fois, on l'a amenée au foot. Ça m'a fait vraiment plaisir.
Nous aussi, on a entendu parler de quelqu'un qui a un handicap.
Tu penses à Stephen Hawking ?
Oui, enfin, je le connais pas personnellement, mais il est un scientifique reconnu.
Oui, et il est la preuve qu'avoir un handicap, cela n'empêche pas de faire des choses très difficiles.
Actualité
d'ici
et d'ailleurs.
Bonjour, nous sommes les CM2 de l'école de Solomon. Nous sommes très contents de vous retrouver pour un nouveau Quoi de neuf.
Le Quoi de neuf, c'est un moment avec notre maîtresse Audrey. Au fond de la classe, sur des coussins, des bancs, nous écoutons.
Des actualités, une découverte scientifique, une expérience.
Je m'appelle Lucène et je vais vous parler d'un grand scientifique, Stephen Hawking.
Moi, c'est Léa. Avec Djibril, on va vous parler de ce qui nous a marqué dans l'actualité.
Pollution. Suite aux conséquences du réchauffement climatique, Venise est menacée par les inondations. En Bretagne, la pollution lumineuse des cultures de tomates perturbe les animaux et les habitants.
Sport. Le 13 novembre, des supporters parisiens ont attaqué des fans de l'OM au concert de Jul. Jul est un rappeur marseillais et certains de ses fans venaient des Bouches-du-Rhône pour l'écouter.
Hôpital. Trop de patients et pas assez de lits. Les infirmiers et les médecins manifestent à Montpellier, Strasbourg ou Lille.
Média. Une femme voilée a cloué le bec à des journalistes de CNews. Sarah El Attar était l'invitée de Pascal Praud dans son émission. Elisabeth Lévy qui interroge Sarah et lui demande « Pourquoi portez-vous le voile ?» Sarah lui répondit « Le voile que je porte est le fruit d'un cheminement personnel. C'est une démarche religieuse. Le débat se recentre ensuite sur le principe global de laïcité. »
Université. Des étudiants manifestent. Beaucoup d'entre eux ne peuvent pas payer leur loyer.
Syrie. Au moins 14 personnes ont été tuées samedi 2 novembre par l'explosion d'une voiture piégée à Tal Abyad, ville contrôlée par les forces turques. L'explosion qui s'est déroulée sur un marché a tué 14 civils.
Stephen Hawking est mort en 2018 à 76 ans. Son domaine de recherche était la cosmologie, la physique et les mathématiques appliquées. Il enseignait à Cambridge.
Pour quels travaux est-il connu ?
Il est renommé pour ses travaux sur les trous noirs.
Depuis sa jeunesse, il souffrait d'une forme rare de sclérose, une maladie qui a progressé au fil des années. Cette maladie l'a presque paralysé.
Oui, et pourtant il était renommé et il a été distingué. Son succès vient également de ses ouvrages de vulgarisation scientifique, dans lesquels il discute de ses théories, en particulier une brève histoire du temps.
Peux-tu me dire plus précisément ce qu'il a trouvé ?
Bien sûr, Léa. En tout cas, ce que j'ai réussi à comprendre, avec Roger Penrose, il a élaboré des théorèmes des singularités dans le cadre de la mécanique quantique. À l'échelle des atomes, ces théorèmes permettent de déterminer à quelles conditions se crée un trou noir.
Un trou noir ? J'ai l'impression d'en avoir déjà entendu parler.
Attends, je cherche une définition. C'est une surface sphérique délimitant une région de l'espace-temps dont même la lumière ne peut sortir.
Dans notre dernière émission, on a parlé d'Einstein. Einstein a beaucoup travaillé sur la théorie de la relativité. Il a décrit l'influence de la matière et de l'énergie sur le mouvement des astres.
Je m'en souviens ! Il était question de son rôle dans la fabrication de la bombe atomique. Et donc, Hawking, lui, travaille sur les trous noirs.
Oui, et lorsqu'il a appliqué ses théorèmes à la cosmologie, ils lui ont permis de prédire l'évaporation des trous noirs. Les trous noirs s'évaporaient par l'émission d'un rayonnement. Ce rayonnement est aujourd'hui appelé le rayonnement de Hawking.
Je croyais que rien ne pouvait sortir des trous noirs.
Alors, si certains ou certaines d'entre vous comprennent cette contradiction, qu'elles nous écrivent à radiocartable@ouvaton.org.
Nous espérons que ce Quoi de neuf vous a intéressé. À bientôt pour un prochain épisode.
Au revoir.
Actualité d'ici et d'ailleurs.
Es-tu prêt à vivre ton anniversaire en direct?
Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Samy! Joyeux anniversaire!
Nous passons l'antenne.
À la semaine prochaine.
Radio Cartable. La radio des écoles d'Ivry.
Bonjour, dans 4 minutes Bibliomanie, et pour faire la transition, nous allons entendre Le temps qui pousse avec Pascal Loc.
Coule la Seine sous le pont des Arts, la vie qui nous mène ira bien quelque part. Coulent les jours, la vie fait son tour. La vie a pris des couleurs, elle a mis ses habits de bonheur. Mais il est tard, on voit la lumière du phare. Les pigeons roucoulent et dansent au soleil. Fais la sourde oreille, coule l'amour, le jour est trop court. La vie a pris des couleurs, elle a mis ses habits de bonheur. Mais il est tard, on voit la lumière du phare. J'attends le bateau qui m'emmènera au fil de l'eau, là-bas, là-bas, du côté des étoiles, je mettrai les voiles. La vie a pris des couleurs, elle a mis ses habits de bonheur. Mais il est tard, on voit la lumière du phare. Sous le pont des Arts, viens, je t'emmène là-bas quelque part. J'attends le jour, j'attends mon tour.